quatre films que vous avez tourné cet été.
Oui.
Des films sur...
Sur les tueurs en série, c'est une mini-série qui s'appelle Dans la tête des tueurs en série avec Stéphane Bourgoin.
D'accord.
Donc c'est 4,52 minutes qui vont être diffusées en janvier à la télé.
D'accord. Et les, vous m'aviez parlé, vous savez...
Des interviews avec 7 tueurs et tueuses en série, américains et allemands.
Américains et allemands.
Oui.
Donc vous êtes allé en Allemagne cette fois-ci?
Oui,
parce que,
oui, oui.
Parce que jusqu'alors c'était plutôt aux États-Unis que vous alliez, ou je m'as compris?
Aux États-Unis, Afrique du Sud, d'autres pays, mais certains pays européens jusqu'à présent répugnent à ce que ce soit filmé.
Ouais.
Ou alors ils veulent bien que ce soit filmé, mais pas que ce soit diffusé à la télévision.
Et alors, comment ils expliquent ça?
Oh, ils n'expliquent pas, c'est juste leur désirata, quoi.
D'accord.
Parce que j'ai déjà filmé des entretiens avec des tueurs en série français, mais j'ai pas le droit de les diffuser.
En France, c'est pareil, il y a le veto aussi.
Oui, oui, oui.
Vous êtes gros.
Comment?
Vous êtes gros.
Vous voulez que ça se met comme ça. Voilà.
Merci. Merci. Non, d'accord. Donc, aujourd'hui, on est jeudi, donc 28 octobre. Donc, je suis avec Stéphane Bourgoin pour Brésil.
Voilà. Oui.
Donc, on lance quand même pour que j'ai un marqueur. Donc merci de me recevoir. Donc justement c'est bien, on va commencer par ça. Vous à ce jour vous avez rencontré combien de tueurs en série?
Avec ceux que j'ai vus cet été, 70. Exactement différents. Et 60. Là je m'apprête à en rencontrer encore plusieurs nouveaux pour les besoins d'un documentaire pour M6.
D'accord.
Et bientôt encore d'autres parce que j'ai pas mal de projets audiovisuels, quoi. Le documentaire.
D'accord. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure, donc c'est aussi bien aux États-Unis, aussi bien en Afrique du Sud, en Allemagne.
En Russie, en Ukraine, dans certains pays d'Amérique centrale. Voilà, quoi.
D'accord.
Sur tous les continents, quoi.
D'accord. Et en France, vous en avez vu, mais sauf que là...
En France, j'en ai rencontré, mais j'ai pas le droit d'en faire état.
D'accord.
C'est-à-dire, j'ai pas le droit de les citer. J'ai filmé des entretiens, mais qui étaient destinés uniquement à mes formations pour le Centre National de Formation de Police Judiciaire de l'École de la Gendarmerie Nationale à Fontainebleau.
D'accord.
Donc, j'ai eu ces autorisations, mais je me suis engagé à jamais parler de ces entretiens dans des livres ou ni de diffuser les images dans des émissions télé, sauf si après j'en ai l'autorisation.
D'accord.
Mais prochainement, je pense qu'on va m'accorder l'autorisation de filmer des entretiens avec des tueurs en série français pour la télé française.
Dans combien de temps, vous pensez?
Je pense que d'ici 6 mois, là.
Et qu'est-ce qui fait que
Qu'est-ce qui fait? C'est tout simplement que j'ai pas eu le temps d'effectuer les démarches et que je vais bientôt les faire parce que c'est des entretiens que je vais mener avec un gendarme.
Et donc, dès l'instant où vous allez faire ça avec un gendarme, du coup, ça
facilitera le processus.
Le processus. D'accord. Vous avez commencé à rencontrer les tueurs en série il y a combien de temps maintenant?
Exactement, pile poil 30 ans. 30
en 79. Ans. 79. D'accord. Donc, c'était par les tueurs en série américains?
C'était des tueurs en série uniquement américains au départ, puis après l'Afrique du Sud, la Russie, l'Ukraine, et puis d'autres pays, au fur et à mesure que mes bouquins, certains de mes bouquins, dont Serial Killer, qui a été traduit maintenant dans 17 langues différentes, étaient publiés dans des pays, j'étais contacté de manière spontanée, comme je mettais mon mail et l'adresse de mon site internet, ou avant l'adresse postale de ma librairie et le téléphone, j'étais spontanément contacté par des policiers des pays dans lesquels mes bouquins étaient traduits, quoi.
Là, comme ça, enfin, à première vue, même si vous devez sûrement avoir du recul, ça fait 30 ans, est-ce que vous trouvez qu'il y a des grosses différences grossièrement entre les tueurs en série qu'on va trouver, par exemple, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou en France?
Non, il y a quelquefois les rituels qui vont différer tout simplement à cause des différences culturelles suivant des ethnies ou autres. C'est-à-dire la façon de ligaturer quelquefois des victimes. Dans le KwaZulu-Natal, va s'inspirer d'une méthode de contraception zoulou, donc par exemple un psychologue de la police française ou un américain ne serait pas capable de détecter, par exemple pour un rapport de profilage, que telle ou telle victime a peut-être été tuée par un Zoulou, tout simplement parce que la façon de ligaturer, ça s'assimile à Lukuzuma, et inversement, quelqu'un en Afrique du Sud peut-être serait pas conscient de la situation culturelle ou autre d'un pays comme la Russie. Mais sinon, si l'on supprime dans les déclarations des tueurs les noms de lieux et de personnes, on a grosso modo, je peux dire à peu près le même type de ressort psychologique qui se manifeste dans le CV de ces tueurs, hein. Bien que chaque tueur en série soit totalement unique, hein. J'en ai jamais rencontré deux qui soient similaires.
Le rituel, le Zoulou dont vous parlez, c'est ce dont vous parlez dans le livre La
Oui, dans
Profileuse,
Profileuse,
l'anthropologie
par exemple. Oui,
Pistorius, hein, c'est ça. Je me souviens de ça, là, de cet homme qui entraîne les femmes dans les champs de canne à
Voilà,
sucre,
le tueur des champs de canne à sucre.
qui leur propose plus ou moins un emploi, et puis au bout
S'il
d'un
faut,
moment,
toi là.
s'il faut toi là, et puis à un moment donné, Mickey Pistorius s'imagine bien la scène où, en
Oui,
fait, les branches de la canne à sucre lui frottent le visage, et il se met dans un certain
puis
état.
là, la façon d'approcher aussi les victimes, parce que là, c'est une région extrêmement pauvre de townships, où il est facile d'aborder des victimes en leur proposant du travail, méthode qui marcherait peut-être pas dans un autre pays plus riche ou moins déshérité, quoi.
Alors justement, par rapport aux tueurs en série, moi ce que j'ai appris dans mes cours, c'est que les motivations psychologiques, c'était souvent manipulation, domination, contrôle.
C'est puissance et contrôle, oui, c'est les
Ah,
deux mots-clés.
puissance et
Oui.
contrôle, et certaines personnes me rajoutent même possession.
Bah, la toute-puissance se manifeste par la possession, hein, de la victime, d'où quelquefois des actes de cannibalisme ou de prendre des parties de corps comme une sorte de trophée de chasse.
Oui, donc ingurgiter l'autre qui est une façon de
Oui, bah.
possesser.
L'un des tueurs là que j'interroge dans ma mini-série là qui va être diffusée sur Planète Justice en janvier dit c'était pour moi la seule manière d'être en contrôle de ma propre existence et j'étais enivré par cette toute-puissance. Il emploie ces termes exacts, hein. Et il dit que c'était comme être au volant d'un bolide ultra rapide sur une autoroute sans limitation de vitesse.
Alors,
Ça, c'est les termes exacts employés.
Et quand vous dites qu'on retrouve souvent le même profil, moi ce qui m'a marqué, c'est que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps des images de tueurs en série, bon, dont on a déjà parlé, que vous connaissez bien, Ted Bundy, bon, Manson, qui
Non,
avait.
justement, on ne
Ah.
retrouve pas le même profil, hein.
Oui.
Je dirais que,
Oui.
grosso modo, oui,
Oui.
l'absence de
Voilà, c'était à
remords,
ça que je pensais.
des choses comme ça, mais. On a un certain nombre de traits communs, mais en même temps, chacun est tout à fait différent. Parce que quand on compare, par exemple, deux tueurs que j'ai rencontrés comme Jeffrey Dahmer et John Wayne Gacy, ils étaient tous les deux animés par des pulsions homosexuelles. Ils endormaient les victimes avec des somnifères ou des boissons droguées. Ils ligotaient les victimes, les torturaient, démembraient ensuite les corps ou les enterraient dans les sous-sols de leur appartement ou de leur maison. A priori, l'approche des victimes, le choix des victimes, les moyens, tout ça, on a deux tueurs qui sont des décalques l'un de l'autre. A priori, hein, quand on examine tout ça, mais quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que leur motivation était à l'inverse, à l'opposé l'un de l'autre. L'un, Jeffrey Dahmer, ne voulait pas que ses rencontres d'un soir le quittent le lendemain. Donc, il voulait à tout jamais garder ses victimes auprès de lui. L'autre, John Wayne Gacy, détestait ses victimes pour les pulsions homosexuelles qu'il lui faisait ressentir. Donc, il haïssait ses victimes. Donc, l'un adorait ses victimes, entre guillemets, l'autre les haïssait. Donc, là, alors qu'a priori, lorsqu'on regarde sur le papier, leur approche des victimes, tout, la façon de tuer, de se débarrasser des corps,
Le
on se
mode
dit,
opératoire.
on a affaire à deux tueurs semblables, hein.
Dahmer, c'est celui qui a
Le
essayé
cannibale de Milwaukee.
qui a essayé de créer une espèce
Oui,
d'esclave,
de zombie,
etc., de zombie. C'est celui dont
oui.
une des victimes a échappé,
Voilà,
qui, hein, c'est ça, qui est
ouais.
attaché par des policiers, sauf qu'ils n'ont pas vu
Oui.
le truc. Mais en fait, quand je parlais de profil identique, bon, c'est moi qui ai employé mauvais termes, en fait, c'était plus à l'absence de remords. Parce que
Oui,
c'est
oui,
ça qui
oui.
m'a marqué quand j'ai vu les images il n'y a pas très souvent, il n'y a pas très longtemps, pardon. C'est ça, c'est quand, entre guillemets, ils pètent la forme, quoi. Quand ils en parlent,
Ah oui, ça
quand
leur
ils.
pose pas le moindre problème, quoi.
Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de.
Quelques-uns, si. L'un d'entre eux me dit, là, qui est dans la mini-série aussi, je dors pas bien la nuit parce que je suis hanté par les visages de mes victimes, mais bon, c'est plutôt parce que, en fait, les empêche de dormir.
Il les
Voilà.
empêche de dormir.
Il a des cauchemars à cause de ses victimes, donc il est dérangé à cause de ça. Donc c'est ramené à son égoïsme et à sa situation personnelle.
Oui, alors c'est les cauchemars parce qu'il repense à ses victimes ou est-ce que c'est parce qu'il ne peut plus le faire? Parce qu'il y a ça aussi.
Non, je
Non?
pense que c'est plutôt à cause des cauchemars,
À cause des
oui.
cauchemars. Alors, bon, la dernière fois que je vous avais vu, on avait discuté de ça aussi. Et on aimerait des fois se persuader que quand des gens font des actes pareils, qu'on a affaire à des psychotiques, des gens qui ont des troubles psy
Hélas,
vraiment.
non.
Et hélas, non.
Des troubles, évidemment, ils en ont, des troubles du comportement, mais c'est plutôt la personnalité psychopathique, asociale, antisociale, quel que soit sociopathe, à la puissance 1000, que le psychotique, puisque quasiment jamais aucun d'entre eux n'a d'antécédents psychiatriques, hein. Je dirais que c'est de l'ordre de 0,5 et quelquefois moins de tueurs qui sont psychotiques.
Mais ce qu'on retrouve quand même en général chez la plupart d'entre eux, c'est que dans leur enfance, il y a quand même des histoires qui sont désastreuses, quoi.
Oui, en règle générale, hein, c'est des familles où il y a des dysfonctionnements graves, abandon parental, c'est généralement l'absence de figure paternelle, une mère quelquefois trop présente. Des problèmes de drogue, d'alcool, d'abus sexuels, physiques ou psychologiques sur l'enfant. Mais inversement, il y a des milliers d'enfants qui
Bien sûr.
passent par cette étape et qui ne deviennent
Et qui
pas
n'est
des
pas
tueurs
tueur en
en
série,
série.
bien sûr.
Donc ça ne saurait
Oui,
en
oui.
rien les excuser.
Non, non.
Mais par exemple, on se rend compte qu'en France, on a à peu près entre 35 et 40% des tueurs en série français qui sont des enfants de la DAS. D'où le fait qu'autrefois on donnait toujours deux prénoms aux enfants de la DAS, le fait qu'on ait beaucoup de tueurs en série français qui aient deux prénoms, José, Pierre,
D'accord.
Émile, Louis, Guy, Georges,
D'accord.
alors que son vrai nom c'est Guy Rampillon, quoi.
Le tueur en série dont vous m'aviez parlé, vis-à-vis duquel vous aviez vraiment éprouvé un grand malaise,
Gérard
c'est
Schaeffer,
Gérard Schaeffer, à
oui.
propos duquel il y avait normalement un DVD qui devait sortir, et
Oui,
on en est où?
qui est toujours prévu. Je pense qu'il va sortir soit fin décembre, début janvier. C'est parce que j'étais trop pris par mes différents tournages et autres. Donc il est déjà sous-titré et tout. Et ça va sortir chez Pacfilm.
Chez Backfilm, c'est ça.
Il y aura deux DVD qui vont faire en tout 7 heures. Avec mes documentaires anciens. Des extraits inédits d'entretiens avec les tueurs, des bonus que j'ai tournés spécifiquement pour les DVD, comme des entretiens avec un profiler de la gendarmerie, un entretien avec un profiler de la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres, il y aura une interview avec Mickey Pistorius, enfin il y aura plein de choses comme ça.
Oui, parce qu'aujourd'hui, Mickey Pistorius, elle n'est plus sur le terrain, d'après ce que j'ai
Non,
compris, c'est ça.
si elle est toujours sur le terrain. Mais elle ne travaille que sur la criminalité en col blanc.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire les histoires de chantage aux entreprises, ou mettons s'il y a un grand nombre de vols de bagages à l'aéroport de Johannesburg, on va l'appeler pour interroger les différents membres du personnel et essayer de détecter. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt de la criminalité en cravate ou en col blanc.
D'accord.
Mais elle ne travaille plus sur des affaires de meurtre.
combien de femmes profileuses vous connaissez?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend par profileuse, parce qu'il y a tous les profilers autoproclamés.
Ben, au sens de Mickey Pistorius, j'ai envie de dire.
Au sens de Mickey Pistorius, je dirais qu'il y en a 7 ou 8.
Ça doit être ça, dans le monde.
Oh non, il y en a plus que ça encore, hein, que j'ai rencontré, vous m'avez dit.
Oui,
mais sinon, il y en a beaucoup plus que ça.
Il y en a beaucoup plus.
Parce que, en règle générale, dans les filières de psycho, c'est plutôt des jeunes femmes, hein, qui font ces études plus que des hommes.
Ouais.
Et donc, on retrouve un petit peu cette proportion chez les analystes comportementaux. Quoi. Puisqu'au sein de la gendarmerie nationale, les deux tiers sont des femmes. C'est maintenant le changer de nom, ça s'appelle plus le GAC, ça s'appelle le DSC, le département des sciences du comportement, depuis cette année.
Alors oui, je vous parlais de Gérard Schiffer parce que dans ce que vous m'avez dit, en fait, enfin même dans ce que vous dites, je crois, hein, sur votre site.
J'ai fait un documentaire sur lui,
oui,
d'ailleurs, l'an dernier, pour France 2.
J'en ai fait 90 minutes. Parce que face à lui, donc, vous avez eu vraiment une impression vraiment de malaise qui était vraiment plus forte qu'avec d'autres.
Ah oui, que j'ai jamais ressenti avec aucun autre.
Parce que, bon là, j'ai lu récemment un livre de Zaghouri qui s'appelle L'ennemi des tueurs. En fait, il disait en quelque sorte que les démons, entre guillemets, penser le mal, c'est vraiment quelque chose de très difficile dans le sens d'être en présence du mal et que ça, quelque part, ça désorganise en fait nous-mêmes en fait.
Ah oui, oui.
La
oui,
personne
oui.
que l'on est.
Oui, bah, d'ailleurs, j'en ai discuté avec Zaghouri il y a quelques semaines de cela aussi.
Ouais. Ouais. Et donc, par rapport à Schiffer, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là que vous avez pu ressentir.
Oui, sauf que ça a été immédiat dès l'instant où j'étais face à lui, quoi.
Ouais.
Avant même qu'une parole ne soit prononcée. Et qu'il était d'aspect débonnaire, charmant, souriant. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur lui. Il y aura plusieurs centaines de photos. J'ai récupéré l'an dernier, je suis allé voir tous les témoins de l'époque, les victimes survivantes. J'ai vu son supérieur dans la police de Floride. J'ai rencontré son ex-petite amie. J'ai visité la maison de sa mère. Les différents domiciles de Schaeffer et les policiers m'ont confié tous les écrits, dessins de Schaeffer, m'ont montré tout ce qui a été saisi chez lui. Donc j'ai fait des centaines de photos, donc le livre va être très illustré. Quoi.
Schaeffer qui était shérif, hein, c'est ça?
Qui était shérif adjoint.
Shérif adjoint,
oui. Oui,
c'est
oui.
ça. Alors justement, quand on parlait de l'aspect débonnaire, pareil par rapport aux images qu'on a d'un monstre, pour parler. Spectaculaire, la plupart des tueurs en série ne portent pas ça sur leur visage. Quoi.
Ah non, de toute façon, je ne les qualifie jamais de monstres.
Oui, oui.
Pour moi, ça reste des êtres humains qui commettent des actes monstrueux. Voilà.
Oui. Je parle de monstres par rapport au fait où des fois on a envie de se raccrocher au fait que ça se voit sur leur visage. Qu'ils ont
oui, et puis bon, le cinéma, lorsqu'il s'en est emparé, a plutôt traité le serial killer comme une figure de monstre.
Oui. Alors justement, dans le sujet cinéma, allons-y. Le but aussi de ce dossier dans Brésil, c'est à la fois, comme je vous l'ai dit, donc de confronter la représentation des tueurs en série dans le cinéma. Alors à la fois, il y a des films qui sont crédibles d'un point de vue, on va dire, clinique, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être très bien d'un point de vue cinématographique, mais d'un point de vue clinique, c'est pas très réaliste.
Oui, oui, oui.
Vous, spontanément, les films que vous pourriez proposer pour avoir un regard qui soit le plus juste possible sur les figures des tueurs en série?
Alors, les films les plus justes, peut-être d'être dans la tête, parce que c'est pas vraiment un tueur en série, mais c'est un tueur en série en devenir, c'est le film de Gaspard Noé, Seul contre tous.
Seul contre tous, ah oui.
Ouais, pour moi, on est vraiment dans la tête...
Oui, d'accord.
La psychopathe. Hein.
D'accord.
En permanence, puisque c'est lui.
Parce que comme moi, je le vois plus comme quelqu'un qui a à la fois une espèce de quête de protection par rapport à sa fille, qui
ouais,
est
ouais.
grand frustré
ouais,
dans sa vie personnelle, etc. C'est vrai que je n'avais pas pensé à
j'ai
ça.
J'ai dit d'un futur,
oui,
tu
d'un
vois.
Futur, d'un futur.
Sinon, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Henry Portrait of a Serial
Ouais.
Killer, hein, le premier uniquement, le film de Mac Mahon, qui je trouve est très bien dans le côté réalisme de l'horreur au quotidien, de la banalité de l'horreur. Oui. Et qui nous renvoie aussi par une séquence un peu similaire à une séquence du voyeur de Michael Powell à notre notion de voyeurisme par rapport aux faits divers. Lorsque Otis visionne la cassette des meurtres en buvant une bière, quoi. Donc c'est comme une sorte de miroir par rapport à nous aussi, à notre goût actuel pour les faits divers, aussi bien sous forme de livres, de magazines à la télé, etc., quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un film qui est aussi sur Henry Lee Lucas et Otis Toole comme Henry Portrait of a Serial Killer, mais qui est inédit en France. Par contre, il existe en zone 2 en Grande-Bretagne, qui est vraiment formidable, qui s'appelle Confessions of a Serial Killer. Qui est un film très très peu vu, archi fauché, qui est joué, l'acteur principal était le décorateur, celui qui a fait tous les ossements et tout, de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. D'ailleurs connu après, le réalisateur a juste fait ce film, et c'est vraiment un film assez étonnant que je recommande beaucoup. Il y a Schizophrénia, Angst
Angst, oui, d'un palais
de
parallèle.
Gerhard Kargl,
Oui, pour moi, je trouve très bien fait, mais
que
après,
je trouve très très
c'est
bien
un milieu
fait,
un peu
hein,
éclaté.
mais vraiment dans la tête d'un tueur en série. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi?
M le maudit, qu'est-ce que vous en
Oui,
pensez?
M le maudit de
Oui.
toute façon, hein, qui est un film superbe, à tout point de vue.
Memories of Murder.
Lui, c'est plutôt sur le côté enquête.
Ce côté
Donc j'allais
enquête.
faire un volet là
Ok.
pour dire que c'est un film très réaliste et en même temps très poétique. C'est un de mes films préférés de tous les temps sur les tueurs en série. Je l'ai vu déjà 6-7 fois d'ailleurs. Je suis même allé le présenter pour un des collaborateurs de Brasil, qui est le programmateur de la Cinémathèque de Toulouse. Qui m'avait donné une carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse, donc j'avais présenté Memories of Murder, qui était encore inédit à l'époque en France.
Il y a The Chaser qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui moi m'a beaucoup
Moi j'ai beaucoup aimé
qui m'a beaucoup
aussi,
rappelé.
mais qui est plus dans le thriller traditionnel que véritablement film de serial killer, quoi. Sinon, sur le côté réaliste des tueurs en série, bah, il y a l'étrangleur de Boston. Et puis surtout, encore, je trouve un cran au-dessus, c'est l'étrangleur de Rillington Place, que je trouve absolument sublime,
Du même
de
réalisateur, c'est ça?
Richard Fleischer.
Les deux
Oui,
sont du même, hein,
oui,
c'est
oui.
ça? Ouais.
Bah, j'ai fait un bouquin sur Richard Fleischer.
Oui,
D'ailleurs, à ce jour, je suis le seul qui ait jamais écrit un livre sur Richard Fleischer au monde. Et puis sur le côté aussi réaliste de l'enquête sur un tueur en série, bah, un film français, c'est Scène de crime de Frédéric Schoendorfer. Mis à part la fin que j'aime moyennement, sinon tout le côté réalisme de l'enquête est très très bien mené, quoi.
Un
Avec
film
d'ailleurs un petit clin d'œil puisque la première victime porte mon nom.
s'appelle Stéphane Bourgoin, oui,
Oui.
j'ai lu sur votre site. Et d'un film comme Harry, comment il s'appelle? Harry, un ami qui vous veut du
Oui,
bien. Celui-là,
j'aime beaucoup
je trouve qu'il est
aussi,
bien
hein.
celui-là.
Alors, il y en a plein d'autres, hein. Là, prochainement, dans ma collection Serial Polar, je sors plusieurs films de serial killer qui sont pas du tout connus. Strange Illusion d'Edgar Ulmer. Et puis un film qui est étonnant, puisque c'est un film totalement amoral de 1900, je crois, 49 ou 1950, qui s'appelle Blonde Ice. C'est à ma connaissance un des rares films sur une serial killeuse. Et le film est extrêmement. C'est une série Z, hein, tournée en 7 jours, mais extrêmement glaçant et froid comme film.
Comment il s'appelle, vous dites?
Blonde
Ah,
Ice.
et c'est de qui, vous savez?
Jack Bernard.
Jacques Bernard. Et on le trouve en
En zone 1, il existe,
Ouais.
mais là, on a acheté les droits. Je le sors là prochainement d'ici un mois, dans ma nouvelle fournée des 12 nouveaux film noir de serial polar, quoi.
Alors il y a un film auquel je pensais aussi, où on ne s'appesantit pas forcément sur l'enquête, enfin c'est J'ai pas sommeil de Claire Denis, je
Oui,
crois,
oui, oui.
hein, que,
Oui.
bon, qui, c'est un autre genre,
Oh ben, il y
mais,
a beaucoup d'excellents films. Hein. Il
oui.
y a je sais plus si c'est la 7e ou la 8e victime, un film coréen
Je connais pas.
qui est superbe aussi. Il y en a vraiment énormément. Hein.
Et alors, bon, de toute façon, il faudra qu'on se limite en film, ça, c'est déjà Christophe Goffet et moi.
Mais à ce moment-là, je pourrais vous envoyer plutôt, si vous me donnez votre mail,
Bien
une
sûr,
liste.
bien sûr, bien
Le
sûr.
temps que je revois dans
Ah oui, je veux
mes un
bien.
peu dans mes
Je veux bien.
DVD.
Oui, il y a L'homme qui voulait savoir, qui a l'air d'être bien, que j'ai jamais vu,
L'homme qui voulait
je crois.
savoir,
Mais c'est un
c'est.
film des années 80. Je crois qu'il y a Bernard Donner dedans, mais je suis pas très sûr, hein.
Ah oui.
C'est un film que j'ai jamais vu personnellement.
Bernard.
Donner. Donner, je crois que c'est
C'est un
ce nom.
film français?
Oui. L'homme qui voulait savoir.
Ah oui.
Mais je l'ai pas vu. Hein.
C'est pas de Georges Suizer, là?
Aucune idée.
Oui. Pas Bernard Donadieu.
Donadieu, excusez-moi.
Ah
Bernard Donadieu.
oui, en fait, il s'appelle La Disparue.
Le film?
Oui,
Et l'homme qui voulait savoir, ça n'a rien à
c'est
voir?
parce que il a fait, c'est Georges Suizer, c'est un réalisateur belge,
Oui.
il a fait un remake de ce propre film avec des acteurs américains.
D'accord.
Et je crois qu'il y a eu deux titres. Celui-là est remarquable. Hein.
Alors, le premier titre, c'est quoi? C'est disparu ou l'homme qui...
C'est un homme qui est obsédé par la disparition de sa petite amie qui est disparue dans une station-service et qui cherche à traquer l'assassin et à la retrouver, quoi. C'est un film superbe. Hein.
Et alors, dans les clichés, justement, voilà, on va sortir un peu couteau et fourchette. Dans les clichés qu'on peut trouver sur... Tant que film, parce que bon, bien sûr, sur ce dossier, je suis sûr qu'on va pouvoir échapper à Seven, Hannibal,
Ouais.
etc.
Je dirais aussi parmi les meilleures choses qui existent, c'est dans les séries télé. Hein.
Oui, alors,
Alors il y a une série québécoise qui est passée sur Télé Monte Carlo qui s'appelle Fortier. Et il y a 6 saisons qui est absolument géniale sur les tueurs en série, avec une unité de la police de Montréal et une profileuse qui traque les tueurs en série et d'autres criminels. Hein. Il y a une série anglaise avec Robbie Coltrane, l'acteur anglais qui est très fort, costaud. Fait un psychologue de l'université de Liverpool qui fume, qui est un serial smoker, un serial buveur de whisky, qui a des problèmes avec son épouse. Mais je crois qu'il y a eu 6 ou 7 téléfilms qui sont tous sortis en France en DVD. Ça s'appelle Cracker.
Cracker.
Cracker, Cracker.
D'accord.
Et c'est vraiment magique, extraordinaire. Hein. C'est parmi ce qui a été fait de mieux avec des réalisations de Winterbottom, de Danny Boyle pour
D'accord.
la télé. Hein.
D'accord.
Il y a la série Suspect numéro 1 avec Helen Mirren qui a eu l'Oscar l'an dernier, qui s'appelle Prime Suspect en anglais, qui est magique aussi. Où il y a eu sur les 5 saisons, il y en a eu 4 sur les tueurs en série. Il y a une autre série qui s'appelle Touching Evil, La part du diable, c'était dans les titres français. C'est pas sorti en DVD en France, mais par contre c'est passé sur 13e rue et puis sur d'autres chaînes du câble avec Robson Green, l'acteur qui fait Tony Hill, le psy qui joue dans La fureur dans le sang, qui est sur Canal+, qui est excellent aussi sur les tueurs en série. Donc ça figure parmi mes panthéons, je dirais plus. Encore plus des séries télé. Et par contre, dans les séries clichés, bah, Esprit criminel, ça c'est vraiment, je trouve ça d'une pauvreté sans nom, quoi. C'est la série qui a un succès énorme sur TF1, quoi.
Je l'ai pas
Oui,
vu
oui.
celle-là.
J'en ai vu 3 épisodes que j'ai tous arrêté de regarder. C'est vraiment les gros sabots à l'américaine, sans finesse, alors que beaucoup de séries anglaises sont vraiment remarquables.
Alors justement, quand on parle de séries anglaises ou américaines, je parlais d'Hannibal, de Silence des Agneaux, que j'ai
Oui,
oublié,
oui, oui.
etc.
Enfin, Le Silence des Agneaux est un excellent film. Hein.
Oui.
Pas crédible,
Oui.
mais somptueux sur le
Oui.
thème du serial killer. Oui, moi j'adore. Hein.
Et alors, rappelez-nous justement, je crois que en fait, Hannibal Lecter, c'est en fait la synthèse de trois tueurs qui ont existé, c'est ça?
Bah, Hannibal Lecter et Buffalo Bill, puisqu'il y a
Oui.
deux tueurs en série dans Le Silence des Agneaux.
Oui.
Buffalo Bill, veut changer de sexe, qui s'inspire de Ed Gein.
Voilà, c'est ça, je pensais à Ed Gein.
Qui garde ses victimes dans un puits, ça s'inspire de Gary Hednick, H-E-I-D-N-I-K. Et par exemple, la façon de kidnapper les victimes qu'il a, à un moment, avec le bras dans le plâtre, sa fourgonnette s'inspire des ruses de Ted Bundy avec sa Volkswagen. Sinon, quand Thomas Harris est allé au FBI pour se renseigner sur la personnalité des tueurs en série auprès du patron des profilers de l'époque, John Douglas, celui-là, John Douglas lui a fait entendre des bandes audio d'entretien qu'il avait eu avec Ed Kemper.
Oui.
Donc il s'est inspiré, mais...
Ed Kemper, le grand Ed Kemper.
Voilà, 2015,
160
à 130.
Oui, oui. Hein,
mais qui n'était pas sophistiqué comme pouvait l'être Hannibal Lecter, quoi. Ouais.
Dans le film.
Oui,
dans
oui,
le
oui.
film. Parce qu'Hannibal Lecter qui a existé. Justement, par rapport à Hannibal Lecter, dont on fait un personnage entre guillemets attachant, puisqu'on réussit à le rendre sympathique au vu de la relation qu'il a avec Clara Steinem. J'ai envie de parler justement de ça, de ce côté sympathique.
Oui, justement, à la fin du Silence des Agneaux, moi ça me choque assez, la séquence finale où il descend de la passerelle de l'avion. On sait qu'il va tuer cet odieux psychiatre qui a persécuté Jodie Foster. Moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que là, il y a une manipulation du spectateur qui fait qu'on est du côté d'Hannibal Lecter.
Alors,
et c'est encore plus prononcé dans le Hannibal de Ridley Scott. Alors là, c'est... Toutes les victimes, quand on regarde le film, méritent de mourir, et de façon atroce. C'est ça la morale du film, hein, quand on l'examine. Il y a le flic pourri joué par Giancarlo Giannini.
Celui dans la cervelle cuit, c'est ça?
Oui, qui est joué par Ray Liotta, l'horrible sénateur corrompu, manipulateur. Et puis l'odieux pédophile handicapé joué par Gary Oldman. Voilà la morale du film quand on l'examine, au-delà du spectacle, entre guillemets, que représente le film. Et ça, je trouve ça très dérangeant.
Et en même temps, actuellement, on a Dexter.
Oui.
C'est vrai qu'il est très attachant.
Oui, oui.
Donc,
moi, j'adore Dexter. Oui, c'est vrai que je l'avais oublié parmi les bonnes séries américaines.
Mais parce que là aussi, il tue des gens qui méritent de mourir, d'après ce que j'ai compris.
Oui, dans la première saison, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Et parce que là encore, on rend un tueur en série attachant.
Attachant, oui, tout à fait. Mais en même temps, il reste malgré tout un psychopathe qui a du mal à avoir des sentiments et tout. Il paraît que ça évolue dans la nouvelle série qui est en cours aux États-Unis, puisqu'il s'est marié, il attend un enfant.
C'est lui qui tombe le cordon.
Et donc en octobre, on verra ça sur Canal+ pour la nouvelle saison.
Alors, quand on parle de Dexter ou d'Hannibal Lecter qui sont présentés sous un jour, on va dire, un peu sympathique, comment vous expliquez-vous cette sympathie pour le tueur en série, alors qu'en principe, on devrait plutôt s'en détourner?
C'est comme à l'heure actuelle, avec un fait divers, Jean-Pierre Trébert, qui a quand même tué la fille de Roland Giraud et Katia L'Herbier, est présenté maintenant comme une sorte de Robin des Bois, de personnage sympathique, alors qu'a priori, il est présumé meurtrier de deux femmes, hein. C'est assez dérangeant pour des familles de victimes ou proches de victimes, oui.
Comment vous expliquez?
Parce que moi, je suis membre fondateur d'une association de victimes, donc c'est quelque chose qui me dérange assez.
Rappelez-nous, le nom, c'est l'UNAVAL, c'est ça?
Victime en série.
C'est Victime en série.
VIES. L'INAVEM, c'est un organisme officiel.
D'accord.
Victime en série, c'est... on n'a aucun lien avec un gouvernement ou parti politique, quel qu'il soit.
Oui, parce que dans l'histoire, effectivement, les victimes sont souvent les grandes oubliées.
Bah d'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un dans la rue de vous citer des noms de tueurs en série, les gens vont vous dire Émile Louis, Guy Georges, Patrice Allègre. Ils sont incapables de vous citer ne serait-ce que le prénom d'une seule victime.
Comment vous expliquez cette amnésie ou cette espèce d'indifférence?
C'est un peu aussi, ça correspond à ce que disait Alfred Hitchcock, que pour faire un bon polar, il faut un bon méchant, quoi. Et que le serial killer représente peut-être l'ogre ou le loup-garou des contes de fées anciens, puis des romans victoriens, où on a eu Dracula, de Bram Stoker, Mary Shelley, etc. Et des méchants d'autrefois, c'est-à-dire que le mal fascine beaucoup plus que les trains qui arrivent à l'heure.
Parce que moi je me suis demandé si est-ce que c'est pas aussi quelque part une espèce de regard cynique de la société dans laquelle on vit sur le fait que on est tellement content de ne pas avoir été celui qui a été attrapé que quelque part on a un peu tendance à se dire celui qui a été pris ça a été un peu bien fait pour lui ou il y a un truc comme ça ou c'est quoi?
Bah, tout dépend, hein. Il y a des personnes qui peuvent être dangereusement fascinées par les tueurs en série, hein. D'autres qui ont un peu, qui rêvent de devenir Clarice Starling. Il n'y a qu'à voir le succès. Il n'y aurait pas des écoles privées de profilage ou de criminologie si ça n'intéressait pas quelque part. Personne et les filières en criminaux à Rennes 2 ou ailleurs, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas s'y inscrire. Hein. Moi, je le vois au travers du succès de mes bouquins. Mon bouquin Serial Killer chez Grasset depuis 91, en grand format, ils en ont vendu 1 million d'exemplaires. Hein.
Le mal fascine.
Je dirais que le mal intéresse, oui. Moi, il ne me fascine pas du tout.
Oui, vous diriez qu'il vous fait quel effet?
Non, moi, je suis passionné maintenant au-delà de ce qui m'est arrivé à l'époque, mon histoire personnelle. Au début, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, mais maintenant, je suis passionné aussi par ce que je fais.
Vous voulez dire, vous en dire quelques mots?
Bah, le meurtre et le viol de ma compagne en 1976. J'ai appris 2 ans plus tard que l'assassin était un multirécidiviste du meurtre. À l'époque, on ne parlait pas encore de serial killer.
Tu dois parler de tueur fou, c'est ce que vous disiez.
Oui. Ouais.
Ce qui correspond pas
Non,
au
pas
fait.
du tout.
Parce que tueur fou, ça va impliquer qu'il est psychotique,
Oui,
qu'il n'est
alors
pas
c'est pas le
conscient.
cas, oui.
C'est-à-dire que c'est pas le cas. Et vous avez pu le rencontrer, ce tueur en série.
Oui, ça a été une erreur de ma part, d'ailleurs.
Parce que effectivement, c'était beaucoup trop proche.
Oui, et puis bon, franchement, j'en vois pas l'intérêt, quoi.
Qu'on essaie de comprendre, je crois que c'est ça.
Oui.
Même si.
De toute façon, on ne peut jamais comprendre. Hein. On peut quelquefois comprendre les mécanismes à partir d'une scène de crime, d'un certain rituel, mais comprendre le premier passage à l'acte, non, ça reste toujours un grand mystère. Hein. Pourquoi l'un, pas l'autre?
Comprendre le premier passage à l'acte, ça veut dire.
Ben pourquoi quelqu'un qui a été abusé, violé en
Oui,
tant
tue
qu'enfant,
une première fois.
qui nourrit des désirs de vengeance, l'un va passer à l'acte et la grande majorité non. Pour moi, honnêtement, ça reste toujours un mystère. Hein. Qui réitèrent après leur geste, ça je le comprends, parce que pour eux, ils y prennent du plaisir, qui n'est pas forcément sexuel, quoi.
On peut rappeler un tueur en série, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui tue trois fois.
Qui tue 3 fois selon la définition du FBI, moi je dirais au moins 2 fois,
Au moins deux fois.
avec un certain intervalle de temps entre chacun des crimes. Moi j'y ajoute aussi avec au moins un mobile ou une dimension psychologique.
Puis,
Puisque certains tueurs peuvent aussi agir pour des mobiles crapuleux, hein, et puis qui ont tout un parcours aussi depuis l'adolescence ancré dans la petite délinquance.
Faut qu'il y ait ça pour vous, faut qu'il y ait petite délinquance.
Pas
Pas
obligatoirement,
volontairement.
mais il y a progression. Hein. On ne devient pas tueur en série comme ça, parce qu'on a vu un Freddy Krueger.
Oui, il y a une espèce de maturation.
Oui, je pense qu'il faut à peu près, moi d'après ce que j'ai pu voir, entre 12 et 15 ans pour construire la personnalité d'un tueur en série.
Là, il y en a d'autres qui prennent 10, 12 ou 15 ans pour devenir des sportifs de haut niveau. Il y en a d'autres qui,
Oui.
eux, malheureusement,
Oui,
prennent le
oui,
biais
oui.
tueur en série. Alors, j'avais compris que tueur en série, c'était aussi tué sur d'autres lieux différents.
Pas
Ça a des disques, pas
obligatoirement, hein, il
obligatoirement.
peut regarder le tueur des champs de canne à sucre, s'il faut toi là. Moi j'ai visité les lieux de ces crimes. Tous les crimes ont été commis dans un rayon de 500 mètres.
C'est ce qui en fait un tueur inorganisé?
Ah non, au contraire, il était
Contre.
très organisé, puisque choisissaient des lieux qui étaient totalement à l'écart, dans les champs de canne à sucre, des chemins. Mais les champs de canne à sucre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand ils sont en maturation, ça peut faire 2,50 m, 3 mètres de hauteur, c'est très dense.
Oui.
Et on pénètre dedans comme dans une forêt, quoi. Au bout de 20 mètres à peine, on ne voit plus rien du chemin extérieur et c'est assez flippant. Hein.
Là, je me demandais si c'est inorganisé, parce que comme il y a 500 mètres, imaginez que ça faisait peu d'espace en fait entre les différents meubles.
Mais c'était
compensé
un
par,
lieu assez immense.
Ouais,
Hein,
c'est
des champs
compensé
de
par
blé,
la
oui.
densité des champs de canne à
Oui.
sucre. Donc oui,
Et
donc.
puis Jeffrey Dahmer tué à l'intérieur de son appartement,
Oui,
donc
oui.
là c'est forcément un lieu encore plus restreint.
Par contre, hormis si ça peut être. Même s'il peut y avoir des proches parmi leurs victimes, généralement c'est des gens qui ne sont pas proches.
Ah oui, je dirais dans 99% des cas, le tueur en série, sa victime ne se connaissent pas. Alors que pour la tueuse en série, c'est totalement l'inverse. La tueuse en série et sa victime se connaissent soit sur le lieu de travail, soit au domicile familial, en tuant ses enfants ou en tuant ses compagnons ou ses maris, pour les veuves noires.
Par contre, pour ce qui est des tueurs en série, on peut aussi estimer qu'ils peuvent projeter sur leur victime quelque chose quand même qui leur est propre. Peut-être la mémoire
Ah bah
de
bien
son
sûr,
partenaire, souvent.
oui.
Ouais, comme par exemple Guy Georges, qui d'après ce que j'ai compris, lui, s'en prenait des victimes qui étaient manifestement pleines de vitalité,
Oui,
des choses
c'est
comme
une
ça.
sorte de vampire psychique.
Ouais,
Oui, oui.
Alors tout à l'heure, je vous disais justement, alors qu'il y a des personnes qui ont 12-15 ans, font en sorte de devenir des sportifs de haut niveau et d'autres tueurs en série. Je suis venu avec quelques coupures de journaux. À vous que je coupe peut-être.
Donc.